Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à HEC, vous avez coécrit Le prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion. Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour, Nico.
Président des CRI, Nico, des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. On parlera notamment des agences de notation. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. On va revenir sur une chronique pas si ancienne que vous aviez écrite, mais je vous donne la liste. Alors, tout y passe. Les profits exceptionnels. Revenir sur le prélèvement forfaitaire unique, donc la taxe sur le capital. Taper sur les rachats d'actions. Remettre en cause ce qui a été promis aux entreprises, notamment sur les impôts de production. Geler le barème de l'impôt sur le revenu, qui fait que certaines personnes pourraient entrer dans l'impôt alors qu'elles n'y sont pas, ou d'autres pourraient franchir dans une tranche supplémentaire. Taxer les compagnies pétrolières. Faire une taxe exceptionnelle et temporaire. C'était l'idée de l'homme du ras-le-bol fiscal, Pierre Moscovici. Tailler le crédit d'impôt recherche. C'est pas une hausse d'impôt, mais c'est à peu près le même effet. Tailler dans le soutien de l'État au service à la personne, proposé par la Cour des comptes. Un certain Jean-Marc Vittori avait écrit « Tout ça finira par des hausses d'impôts ».
Oui, je l'avais écrit il y a des mois, c'était pas très difficile à prévoir. On voyait bien que la croissance était plate, on voyait bien que les dépenses, si elles sont relativement tenues, bah, continuaient tout de même d'augmenter, et on voyait bien que les recettes ne suivaient pas. Et donc, on en est là aujourd'hui. Le constat qu'a fait l'INSEE mardi matin, c'est exactement celui-ci. Hein. C'est un 6-4-2. Hein.
6-4-2.
Oui, c'est pas du foot. Hein. Au foot, ils sont pas 12 sur le terrain. C'est 6% de croissance du PIB en valeur, hein, pas en volume. 4% de croissance des dépenses. Donc, les dépenses ont moins augmenté que le PIB, ce qui est normal puisqu'on a résorbé le bouclier tarifaire. Mais surtout, les recettes n'ont augmenté que de 2%. Et donc ça, les recettes qui ont augmenté que de 2%, ça donne plein d'idées à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a été créée pour contrôler les comptes de l'État.
À l'origine,
contrôler
oui,
notamment les dépenses publiques, oui. Les dépenses royales.
C'était les Anglais qui voulaient contrôler les dépenses de guerre de la couronne.
Et autoriser à prélever sur les citoyens. Donc c'est vraiment la fonction centrale du Parlement que d'assurer une forme d'équilibrage des finances publiques. Et donc ça fait des mois à l'Assemblée qu'il y a des propositions. Tout ce que vous avez cité, pratiquement tout ce que vous avez cité, il y avait déjà des propositions de loi qui traînaient, qui n'étaient pas forcément rédigées, qui n'avaient pas forcément été posées.
Il y a eu des tentatives dans le budget 2024, c'est vrai. Voilà. Oui.
Donc il y a toute cette série-là. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en France, on préfère toujours... presque toujours augmenter l'impôt à réduire la dépense. Et donc, il y a quelque chose qui nous en préserve régulièrement, c'est qu'on préfère tout de même payer moins d'impôts. Donc, les politiques, à chaque fois, promettent des hausses d'impôts, des baisses d'impôts. Si vous regardez historiquement, ça fait 30 ans qu'on a des baisses d'impôts chaque année ou presque, parce que politiquement, ça plaît. Mais à chaque fois, c'est intenable. Et on a des effets de base qui font que le produit de l'impôt augmente davantage que ne baissent les taux, on a eu ça plein de fois. Et donc, on est dans cette logique-là.
Alors, la difficulté, c'est que Bruno Le Maire martèle depuis toujours qu'il n'augmentera pas les impôts, qu'il ne veut pas augmenter les impôts, mais il a un Premier ministre au-dessus de lui, qui quand même, il y a quelques jours, sur TF1, a dit « j'ai pas de dogme ». J'ai deux lignes rouges, les classes moyennes qui bossent et les entreprises, mais j'ai pas de dogme. Pas de dogme, Nicolas, ça y est, la porte est ouverte. Hein.
Souvenez-vous d'un autre Nicolas Sarkozy.
Je n'ai pas été élu.
Il arrive au pouvoir en 2007. Il commence par trois baisses d'impôts majeures qui rabotent parce que tout de même, ça va coûter trop d'argent. Ensuite, la crise éclate en 2008. Il ne cesse de répéter « je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts ». Combien de fois avons-nous entendu cette phrase présidentielle ? Comment a terminé le mandat de Nicolas Sarkozy ?
Par des hausses d'impôts.
Par des hausses d'impôts massives en 2012 qui ont contribué à la récession.
Et François Hollande prendra le relais pour continuer.
François Hollande, lui, il avait le goût de l'impôt. C'est différent. Ouais. Lui, il rêvait de ça et donc il a pu on a été servi.
Jean-Pierre Petit, est-ce que le levier de l'impôt est praticable encore en France ?
Je voudrais juste, avant de répondre à cette question, revenir sur la remarque de Jean-Marc. Parce que souvent on dit on préfère la dépense publique, les politiques manquent de courage. Je pense que ça va même au-delà. Il y a beaucoup trop de gens qui dépendent de la dépense publique en France. Alors non seulement il y a les 5,5 millions d'agents publics.
6 millions. On a franchi le cap des 6 millions.
On est à 6 millions maintenant.
6 millions, c'est-à-dire on augmente. Enfin, mes derniers chiffres que j'avais, c'était au moment de l'élection de Sarkozy, on était à 1 million, on était à 5 millions en 2007.
Oui, mais on était presque. Oui, moi j'avais 5,5 millions aujourd'hui, on est peut-être proche des 6.
Il y a les titulaires du RSA, il y a 17 millions de retraités. Il y a les multiples associations qui ont du pouvoir d'influence et qui dépendent, faut pas l'oublier, de la subvention publique. Il y a le millefeuille institutionnel et ses armées d'élus locaux en France, ou ces armées de fonctionnaires territoriaux en France qui dépendent de la dépense publique. Donc remettre ça en cause, c'est pas seulement l'effet récessif sur la macro, parce qu'effectivement si on coupe les dépenses, c'est un effet récessif, c'est un effet sociologique et politique fort. On est dépendant de tout ça. On est dépendant de tout ça et on a été drogué pendant des années à la dépense publique, on sait pas faire autrement. Alors les impôts, je lisais, c'est une anecdote, mais une déclaration d'Estrosi ce matin là.
Christian Estrosi.
Le maire de Nice qui augmente la taxation foncière. Et alors dans sa déclaration.
La taxe foncière?
La taxation foncière locale.
D'accord.
Mais alors dans sa déclaration plein de courage, il dit ma ligne politique, c'est pas Reagan et Thatcher, c'est Pompidou et De Gaulle. Le type est totalement ignorant. Oui. Totalement ignorant. Mmh. Il sait pas qu'au début des années 60, le prélèvement obligatoire, c'est 35% du PIB. Malgré la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc., qui a coûté très cher, etc. Il sait pas ça. Que l'équilibre budgétaire est pratiqué de façon quasi constante jusqu'en 73. Par Pompidou. Là, il sait pas ça. Même ça, il le sait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait comme, tous les, je vous rappelle que la France a 4, à peu près en 40 ans, a 4 surplus primaires. C'est-à-dire un solde budgétaire, positif, hors charge d'intérêt. Sinon, il en a aucun, non charge d'intérêt depuis 50 ans. Depuis 74. Mais dans la soutenabilité de la dette publique, ce qui compte, c'est le solde primaire. Elle en a 4. C'est quand? À la fin des années 90, évidemment.
On a 4 années où on est en excédent primaire.
C'est tout. Voilà. Depuis 40 ans. Depuis Mitterrand. Pourquoi? Bah, parce que, tout simplement, il y a la croissance qui accélère à la fin des années 90. C'est pas dû à nous, c'est dû à la bulle Internet. Et aux États-Unis qui font plus de 4. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que dit le président de la République, à l'époque, qui est pourtant réputé être de droite, en principe?
C'est Jacques Chirac.
Il dit c'est la cagnotte. C'est-à-dire, il y a de l'argent en plus qui n'était pas prévu grâce à la croissance. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire qu'on a un déficit public moindre qu'anticipé et ça se transforme dans le langage public en cagnotte. Dans le langage public, il y a le concept de dépense fiscale qui n'existe qu'en France. C'est-à-dire, tu réduis le crédit d'impôt recherche.
C'est de la dépense fiscale économisée. Voilà. Oui, c'est comme une hausse d'impôt.
Ils appellent ça des économies. Alors que c'est, concrètement, c'est des hausses d'impôt. Voilà. Donc on est, voilà. Je dépense, donc je suis. Ça, c'est la philosophie politique, mais qui, à mon avis, c'est pour ça que pour le moyen terme, on ne peut être que pessimiste. Et à mon avis, ça va être très difficile à sortir de ça, non seulement au plan macro, mais surtout au plan sociologique et politique.
J'ai dit cette semaine, Bruno Le Maire s'est désolé de ce 50e triste anniversaire des budgets dans le rouge. Je me suis demandé pourquoi il ne s'était pas posé la question au 43e budget dans le rouge. Parce qu'il est arrivé au 43e quand même. On peut continuer avec les impôts, selon vous, Augustin Landier. Alors vous passez en 3e, c'est toujours un petit peu compliqué, mais...
Ouais, alors d'abord, moi, je pense que ce qui est frappant, c'est moins le... D'abord, la France n'est pas complètement unique en son genre, donc déjà l'espèce de singularité française, c'est pas... Tous les pays développés ont augmenté la dépense. Après, la France est particulièrement en tête de peloton, mais il y a eu un accroissement généralisé, en fait, du système social tel qu'il est pratiqué dans les pays riches. Après, il y a ce cycle, donc quand on prend de la bouteille, bah, on voit bien que c'est cyclique, ce truc. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ça va bien, il n'y a aucune raison politique de s'astreindre à des contraintes qui sont pas gravées dans le marbre, c'est pas politiquement payant et donc là les politiques sont pas coupables, il s'agit pas d'un manque de courage politique, c'est que voilà, tant que la contrainte est pas mordante, il y a aucune raison de s'y soumettre. Pécresse avait complètement raté sa campagne en essayant d'introduire un thème qui était juste 2-3 ans en avance de phase.
Donc il y a une responsabilité quand même, vous dites pas coupable, mais il y a une responsabilité.
Le job du politique, c'est de se faire élire et d'essayer de créer des consensus.
Dire que sous De Gaulle, il n'y avait pas de contrainte, il n'y avait pas de pacte de stabilité. Il pratiquait l'équilibre budgétaire.
Bon, en tout cas, on pourrait la graver dans le marbre s'il y avait une demande politique si le peuple le voulait. Mais c'est ça que la question qu'il faut se poser, c'est quel est le consensus politique sur est-ce qu'on veut s'astreindre à plus de contraintes de pilotage. Alors après, effectivement, la contrainte, là, on s'approche de la zone où les gens ressentent la contrainte, les médias commencent à en parler, le peuple est conscient que faut faire attention. Et donc, ça va être à nouveau un thème de débat politique. Et c'est très sain. Mais moi, j'y vois pas une espèce de, d'énorme dérapage. Le dérapage, c'est les erreurs de forecast, les erreurs de prévision. Ça va pas quand le gouvernement dit on est très surpris par ce qui s'est passé. Ça c'est très coûteux pour la crédibilité du pays, parce que tout la crédibilité de la dette, elle se joue évidemment sur notre capacité à prédire ce que le pays peut supporter en termes de réformes et ce qui va se passer en termes d'évolution économique. Mais voilà, on est dans une séquence où ce sujet redevient un thème.
Vous me présentez ça, Augustin, c'est rien de nouveau sous le soleil, on va vivre comme d'habitude.
Non, mais du coup, il faut regarder dans le passé ce qui a marché. Ce qui a marché, c'est plutôt des packages de réformes où c'est pas une idée géniale pour dégonfler le mammouth, c'est un ensemble de réformes où il y a à la fois de l'impôt, une révision à la baisse des engagements sociaux, de la simplification. Je pense que l'agenda de simplification, par exemple, doit être très lié à ça. C'est vrai qu'il y a une bureaucratisation de plein d'aspects de l'économie qui est contre-productive, qui nous coûte très cher. La norme génère de la complexité, qui génère des coûts additionnels. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, je pense qu'il faut vraiment lier les deux. Mais effectivement, je pense, comme Jean-Marc, qu'il y aura des efforts fiscaux également, enfin, qu'il y aura des taxes supplémentaires sur certains.
Parce qu'il y a déjà eu, sur la dépense fiscale, il y a déjà eu des petits mouvements. Hein, quand on vous dit qu'il faudra mettre 100 euros pour utiliser son compte personnel de formation, quand on vous dit qu'il va falloir qu'on va doubler la franchise médicale, comme disait Jean-Marc, on va commencer à le voir, vraiment à le vivre. Mmh. Là, l'assurance chômage, on se dirige vers une sorte de loi Peter Hartz 4 à la française 20 ans plus tard, où on va prendre les curseurs allemands qu'on va probablement appliquer à l'assurance chômage
française. Mais ça sera un 17, et puis après, ça va redrifter, repartir vers une tendance d'aller trop loin, si vous voulez. Mais c'est finalement, je pense qu'il faut accepter ce fonctionnement cyclique qui est
Cyclique. Jean-Marc Vittori.
Premièrement, en France, on a un génie fiscal.
Je vous trouve défaitiste.
Non, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas plus inquiet que ça. Je trouve ça très sain que ça revienne un thème politique.
Vous me dites que ma liste de début d'émission, c'est pas grave, tant pis.
En France, on a un génie fiscal. Hein, on adore l'impôt, on adore en inventer. Je vous rappelle que le produit d'exportation le plus extraordinaire que la France ait inventé, c'est la TVA, qui est exportée pratiquement partout dans le monde, sauf aux États-Unis, invention française des années 1950. Deuxièmement, quand vous regardez dans des enquêtes, et aussi ce que disent les gens qui travaillent dans les administrations fiscales. En France, on a un consentement à l'impôt qui est extraordinairement élevé, plus que dans la plupart des autres pays. Et j'ai tendance à croire qu'en France, on pourrait encore relever les impôts à condition qu'on soit un petit peu plus convaincu de l'efficacité de la dépense publique.
Je crois qu'il y a Jean-Pierre un contrôle Petit. Fiscal très efficace. Je suis pas sûr qu'il y ait un consentement.
Si, en amont, il y a un consentement.
J'ai lu un sondage hier. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Réponse non à 85%. Consentement à l'impôt, je sais pas ce que ça veut dire.
D'ailleurs, ce qui m'a frappé, on a eu un sondage Elab BFM TV sur
les gens
justement.
Consentent à l'impôt qui ne paye pas. C'est pour ça que l'ISF est populaire.
Pas seulement.
Figurez-vous que dans le sondage Elab BFM TV de mercredi, est-ce que la solution est dans plus d'impôts? Alors, ils sont très majoritaires, les Français, à dire non, bien sûr. Surtout pas les miens, évidemment. Mais est-ce que la solution est dans plus d'impôts pour les entreprises très riches ou plus d'impôts pour les particuliers très riches? Il y a moins de 50% des réponses qui sont favorables à cette solution.
Oui, ça ne m'étonne pas, il y a un début
Il y a quelques années, on aurait dit qu'il faut aller taper les plus riches, on aurait eu 80% de oui.
Ça change. Le génie fiscal, Jean-Marc Vittori. Je rappelle qu'en France, l'impôt sur les sociétés est né d'une taxation des profits exceptionnels pendant la Première Guerre mondiale. Avant, il n'y avait aucune imposition sur les sociétés. Il y a des entreprises qui ont fait des profits absolument extravagants pendant la Première Guerre mondiale, ce qu'on a vu récemment dans d'autres sujets. Et c'est là qu'on a créé l'impôt sur le revenu. Donc quand il y a des problèmes, on peut aussi avoir...
Jean-Pierre
Petit.
Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Augustin. Moi, je pense que c'est un problème qui commence à devenir structurel aujourd'hui. C'est pas seulement un problème cyclique. D'abord parce que le niveau de dette est plus élevé. Et donc, dans les quatre paramètres de la soutenabilité, il y a quand même déjà le niveau de dette, indépendamment du taux apparent de la dette, de la croissance nominale, enfin tout ça, du solde primaire. Donc, on est à 110 aujourd'hui. Donc, 110, ça commence à devenir déjà une première contrainte. Deuxièmement, les dépenses liées au vieillissement augmentent mécaniquement. Donc ça, il n'y a pas de miracle. Alors, il y a des nouvelles dépenses qui arrivent là. Les dépenses liées à la transition énergétique, numérique, les dépenses liées au réarmement, l'aide à l'Ukraine, combien de temps ça dure, etc. Ça fait quand même quelques contraintes pour les prochaines années qui sont un peu nouvelles ou du moins qui se renforcent.
Mais ça, si on ne décide pas de lâcher d'autres postes face à ce que vous décrivez, qui est tout à fait objectif, ça ne passe plus.
Ce qui est frappant, c'est que quand on regarde, on compare la France avec d'autres pays, la dimension cyclique, elle n'est pas si évidente. C'est-à-dire qu'on voit que dans d'autres pays, si vous faites dépenses publiques sur 50 ans, France, Royaume-Uni, Allemagne, ben vous voyez qu'en France, on a un effet cliquet. C'est-à-dire que quand on a des crises, on a la dépense publique qui augmente, mais ensuite, elle ne redescend pas. En Allemagne, elle redescend progressivement, et au Royaume-Uni, on a des cycles très politiques qu'on voit sur l'ampleur des dépenses publiques. Donc, il y a tout de même une spécificité française structurelle au-delà des effets qu'on
voit. Le cas le plus impressionnant, c'est les pays scandinaves aussi, qui avaient connu des niveaux de dette publique extrêmement élevés.
La Suède, qui était à 70%
jusqu'au début des années 90, et qui ensuite
maintenant est inférieur à la France.
C'est parce qu'on a un effet cliquet. C'est un peu comme les prix lors des vagues d'inflation. On passe une marche et on ne redescend pas. Mais donc, à la question, est-ce que le levier de l'impôt est encore praticable en France? Vous me dites, peut-être pas, mais pourtant, on va le faire.
Non, moi, je dis peut-être si on a de la dépense publique plus efficace.
Vous réduites, mais ça sera à la marge. C'est-à-dire qu'il y aura des hausses d'impôts en échange de baisse des dépenses. C'est comme ça que ça va fonctionner politiquement.
Après, il y a le problème. Il y a quand même le problème de la contrainte extérieure.
Et ça, on va y venir, la contrainte extérieure.
Parce que là, je veux dire, elle commence un petit peu à se manifester.
J'entends ce que vous dites, Augustin Landier, sauf que là, dans les propositions que je vous ai citées, il y a Elbron Pivet, Jean-Paul Mattei, Sylvain Maillard, Stella Dupont, Pierre Moscovici, la Cour des comptes, personne n'apporte le début d'une solution de reprise en main des dépenses publiques. Il y a eu le décret en urgence à 10 milliards parce qu'il fallait envoyer un gage avant les agences de notation. On ne sait pas trop comment on va faire pour la suite. Bruno Le Maire, là, reçoit les gens à Bercy, il y en a déjà certains qui ne veulent pas venir, en disant, bon, c'est un simulacre, j'ai lu à peu près ce genre de choses, notamment venant de la part de groupes politiques, on n'a pas la solution.
Non, mais il y a ça, et ça, les investisseurs le savent. Parce que tout le monde se focalise sur les agences de rating, moi je vois des investisseurs tous les jours, qui sont bourrés d'obligations publiques françaises, et c'est pas les agences de rating qui leur fait peur, c'est la situation politique française.
C'est-à-dire
les fortes tensions sociales, ou alors une motion de censure, une dissolution, une incertitude politique totale, avec effectivement aucune force politique en France, au niveau de l'offre politique française,
c'est un
qui soit
plus,
susceptible d'apporter un discours crédible et durable sur un ajustement à la baisse des dépenses publiques inefficaces. Ça, c'est le vrai sujet. Ça, le spread augmente. Alors là, ça, c'est sûr.
S'il y a un choc politique.
Je suis quasiment persuadé.
La dernière fois qu'on a vu
les agences de rating, peut-être que tu avais une question là-dessus.
Non, mais ça va, je vais y venir, je vais y venir. En tout cas, même si on considère que le levier fiscal est mort, il va continuer à fonctionner. C'est un peu la conclusion. C'est la conclusion de ce qu'on se dit là. Juste un mot là sur l'histoire de la Cour des comptes qui s'attaque aux services à la personne. 9 milliards tous les ans pour 4,4 millions de particuliers employeurs, notamment pour quelquefois des services à la personne, un peu de confort, faire venir un jardinier, faire venir quelqu'un pour faire du bricolage ou une femme de... C'est peanuts, c'est aucun intérêt, on s'en fout. C'est du bavardage.
Non, mais je rappelle pourquoi.
Jean-Marc Vittori.
Ces dispositifs avaient été créés. Quand vous payez quelqu'un, il y a ce que la personne touche et il y a ce qu'il faut verser en cotisation sociale. Ça double pratiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait du travail au noir de manière absolument colossale. La raison pour laquelle on a créé cet allègement fiscal, c'était le travail au noir. Et le travail au noir a beaucoup baissé. Et donc, si on fait ça, sauf si on numérise l'argent pour empêcher la fraude fiscale, il n'y en est pas question, on va voir ressurgir inévitablement le travail au noir, parce que ça va doubler le prix du travail pour un certain nombre de gens, même si c'est estimé comme du confort par
Moscovici,
qui n'a sans doute pas un jardin à faire entretenir.
Moscovici considère que s'occuper d'une personne âgée ou entretien des rosiers, c'est pas le même.
Ça n'empêche pas le travail au noir.
Même chez des particuliers employeurs aisés qui peuvent, c'est sûr que.
On l'a rappelé. Les gens aisés.
Les gens aisés.
Comme disait Hollande.
Les aisés. Et crédit d'impôt recherche, est-ce qu'il faut tous les ans rouvre le sujet du crédit d'impôt. Oui, mais c'est vrai que ça engloutit 6 milliards et demi. C'est vrai qu'on sait qu'il y a eu des effets d'aubaine de la part de grands groupes qui ont fait des entités de recherche capées à 100 millions pour avoir le max du CIR.
On sort pas toujours des mêmes débats depuis 40 ans. Cette histoire a commencé en 81. Vous savez à combien était la dette publique par rapport au PIB en 80?
Il date des années 80, le CIR.
20%. Bon, les premières conneries ont commencé à partir de là. Et on est dans notre on est englué dans notre vieux discours.
On est englué.
Voilà. Et
on est vraiment.
On n'en sort pas. Et là, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes structurelles qui commencent à devenir menaçantes.
Bon, alors justement, c'est pas un problème, c'est la solution. C'est-à-dire que les réformes se feront que sous la contrainte externe.
Bon, donc... Super transition, Augustin.
Il y avait la crise de la dette souveraine, quand même. Entre 2009 et surtout 2012, on a pensé à un moment, et moi je me rappelle, il y avait des débats ici, parce que le spread est monté presque à 200 points de base à un moment donné. Hein. Avant l'élection d'Hollande, c'est pas Hollande. Hein. C'est,
on a été à 200 en fait, points de base avec
celui qui a sauvé le truc, c'est Mario Draghi, en fait, fondamentalement.
Oui.
Avec l'OMT en juillet 2012. Mais on se posait la question.
Oui, mais les regards étaient sur le Portugal, l'Espagne.
Oui, mais 200, on n'était pas loin de 200 points de base. Et qu'est-ce qui nous a sorti Hollande? Il nous a sorti des augmentations d'impôts. Qu'est-ce qu'il a fait en matière de dépenses? Non, c'est pas forcément la bonne.
On marque une pause. J'ai un auditeur qui dit exactement comme vous, Augustin. La France, il est écrit, la France ne changera que lorsque le FMI viendra remettre de l'ordre. Et ça va venir avec la hausse de la charge de la dette. Ce sera une bonne chose.
C'est vrai qu'en 58, quand De Gaulle arrive,
il y a le FMI. Quasi. Mais on a souvent dit ici que de toute façon, tant qu'on n'aura pas le surin des marchés dans le dos, et je rappelle l'anecdote quand je me suis un peu frité avec Pierre Moscovici chez Thierry Ardisson sur Canal Plus en novembre 2013.
Depuis, tu t'es bien entendu et tu l'as pas invité ici.
Non, ça a laissé des traces. Et je me souviens qu'on retourne dans la coulisse et je lui dis, mais il y a qu'un truc qui compte, c'est le taux. Il me dit, mais il y a que ça qui compte. Mais que ça. Le reste, rien n'a d'importance à part le taux auquel on place nos obligues. Il y a que ça qui compte.
Quand même le niveau de dette, il y a le solde primaire.
En 2013, j'ai pas le montant de la dette de 2013, mais évidemment, on n'était pas à 3 088 milliards.
À 2013, on devait être à un petit peu moins de
90%.
D'accord. En 2015.
Oui, on était à moins de 90%.
En 2015, on a un 93 en France. Combien est la moyenne de la zone euro? 93. À combien on est aujourd'hui? 110. Quelle est la moyenne de la zone euro? 90. 20 bips de différence. Voilà.
On se retrouve dans un instant.
Et tu veux que les agences de rating ne
les rapportent? Justement, on parle des agences de rating dans un instant et puis on verra où en est l'Allemagne. Allez, c'est parti, à tout de suite.